on est en train de passer à côté de champions de demain qui se démotivent, qui n'ont pas ce qu'il faut pour aujourd'hui travailler pour avoir les résultats demain. Bon, et ben le constat, pour moi, il est simple, c'est qu'on ne pleurera pas en 2026, 2028, 2030, 2032, 2034.
Championne du monde
40-0.
Championne du monde. Championne du monde.
Salut, c'est Cléo et bienvenue sur Championne du monde, le podcast des femmes qui construisent le sport de demain. Alors, pas besoin d'être championne du monde pour passer ici. Toutes les deux semaines, on vous fait découvrir la voix de femmes qui incarnent le sport et font bouger les lignes. Athlètes, journalistes, médecins ou même ta mère, fan de Kevin Mayer, on part à la rencontre de nanas qui déchirent et surtout toujours plus badass que la plus badass de tes copines. Bonne écoute! Hello tout le monde, je suis extrêmement heureuse de vous présenter ce nouvel épisode que j'avais envie d'enregistrer depuis très longtemps. 3 ans, exactement, c'est-à-dire les tout débuts de championne du monde. Et enfin, j'ai eu l'opportunité de m'entretenir avec Nathalie Péchala, ancienne sportive de haut niveau en danse sur glace, aujourd'hui présidente de la Fédération française des sports de glace, mais également chef de mission pour les prochains Jeux olympiques de Pékin. Nathalie a un parcours atypique, pas forcément celui qu'elle imaginait elle-même. Sportive de haut niveau, commentatrice sur Eurosport, danseuse sur TF1, une multitude d'expériences qui l'ont amenée, le 14 mars 2020, à prendre la tête de la Fédération des sports de glace suite aux révélations de violences sexuelles au sein du patinage français et la démission de Didier Gayagué. Une arrivée, donc, dans un contexte de crise interne, puis de crise planétaire liée au Covid. Pour être honnête, j'avais des milliers de questions à lui poser. Mais notre temps étant limité, j'ai surtout souhaité comprendre ce qu'impliquait son rôle de présidente de fédération et ses ambitions pour celle-ci. Sans vous spoiler, la discussion avançant, j'ai été interloquée par sa liberté de ton et de parole qu'on imagine pourtant pas vraiment compatible avec les hautes instances du sport et une approche politique. J'encourage sincèrement tous les sportifs et sportives qui passent par là à écouter cet épisode qui met en avant des problèmes systémiques dans le monde du sport de haut niveau et qui aide à comprendre la structuration du sport français aujourd'hui. Et pour tous les autres, allez bien évidemment écouter cet épisode aussi car ça vous donnera, j'en suis sûre, à l'image de Nathalie Péchala, l'envie de faire bouger les choses. Bonjour Nathalie.
Bonjour.
Je suis ravie qu'on puisse échanger aujourd'hui dans les locaux d'Eurosport. Tu es une personne que j'admire énormément.
Gentil.
Non, c'est vrai, pour tout ton parcours. Et je suis vraiment contente qu'on puisse échanger un petit peu aujourd'hui sur ton parcours, entre autres choses. Pour faire un rapide état des lieux pour les personnes qui nous écoutent, tu es ancienne sportive de haut niveau en danse sur glace. Mm-hmm. Tu es également présidente de la Fédération française des sports de glace et plus récemment chef de mission pour les Jeux olympiques de Pékin en 2022 et également maman de 2 enfants.
Oui.
Donc ça fait beaucoup d'activités.
Oui, on s'ennuie pas. Les journées sont bien remplies.
Moi, j'ai une première question forcément, parce que je viens d'énumérer toutes tes fonctions. Ça fait beaucoup de choses. Comment tu gères toutes ces activités-là? Comment tu répartis ton temps finalement entre ces différentes fonctions que tu occupes?
Alors, la mission de chef de délégation pour Pékin 2022, c'est très ponctuel. Donc là, ça va commencer à s'intensifier jusqu'au point d'orgue de février. Février, ça va être extrêmement prenant. Je pense que si j'arrive à dormir 5 heures par nuit, ça sera énorme. Ensuite, au quotidien, je priorise, j'essaie d'être un maximum organisée, de me garder du temps pour mes filles, notamment pour ma famille. Parce que, comme tu l'as dit tout à l'heure, je suis ancienne sportive de niveau. Donc, pendant très longtemps, j'ai été autant centrée sur ma carrière avec mes heures d'entraînement, mes heures de sommeil, mes repas. Enfin, c'était vraiment... j'étais dans une bulle. Et là, mon ambition personnelle au jour le jour, c'est toujours de trouver le bon équilibre entre la vie professionnelle, la vie personnelle. Donc, par exemple, entre 18h et 20h, je ne suis jamais disponible puisque je consacre ce temps à mes filles, le matin aussi, jusqu'à les emmener à l'école. Et puis ensuite, je fais ce qu'il faut. Et le métier de président de fédération, c'est aussi des compétitions le week-end, c'est des événements forcément le soir avec les bénévoles, les volontaires, les élus. Donc voilà, j'essaye de me donner à 100% avec des horaires bien compartimentés.
Et ça peut être un peu opaque aussi. Est-ce que tu peux nous expliquer concrètement quel est ton rôle
en tant que présidente de la Fédération française des sports de glace, ce sur quoi finalement, ce sur quoi tu travailles concrètement.
Il y a plusieurs volets en tant que présidente de fédération. C'est un métier très riche. Je parle de métier parce que certains sont rémunérés, d'autres non. Moi, j'ai la chance que ça soit le cas. Donc, j'ai pu me consacrer uniquement à ce travail. Je fais ponctuellement des conférences pour les entreprises, mais c'est vraiment très ponctuel. Le rôle de président de fédération, c'est d'être responsable de tout ce qui se passe à l'intérieur de cette fédération. Ça concerne évidemment tout le volet haut niveau, mais aussi le développement des disciplines, la formation des entraîneurs et de tous les autres métiers de la glace. Surfaceur, par exemple, pourquoi pas gestionnaire de patinoire, les officiels d'arbitrage. Donc, il y a aussi tout le volet, donc des volontaires, des bénévoles, des élus, toutes les commissions qui dépendent de la fédération, donc officiels d'arbitrage, médical, toutes les commissions sportives qui travaillent sur l'évolution des règlements. Et donc, être président de fédération, c'est donner les orientations, les lignes directrices pour le mandat pour lequel on a été élu. Et puis, au-delà de ça, il y a tout le fonctionnement classique d'une entreprise, puisque nous organisons nos événements fédéraux, nationaux et internationaux. Mmh. Donc, tout le volet événementiel, le volet communication aussi, et puis la gestion classique, donc qui comprend aussi la comptabilité, les ressources humaines de n'importe quelle entreprise.
Ça fait beaucoup de choses, hein, effectivement. Ça a toujours été une...
Et j'ai pas parlé des relations avec les instances nationales, comme l'Agence nationale du sport, le CNOSF, les collectivités aussi avec nos élus, et puis les 5 fédérations internationales auxquelles sont rattachées, est rattachée la Fédération française des sports de glace.
D'accord. Ça a toujours été une volonté pour toi, après ta carrière, de t'investir dans les hautes instances du sport, ou en tout cas au sein de fédérations. Tu t'es toujours dit... C'est quelque chose que je veux faire, je veux être utile, je veux être moteur, actrice dans le monde du sport. C'est arrivé un peu par hasard finalement.
Honnêtement, c'est arrivé par hasard avec la commission des athlètes donc du Comité national olympique, le comité directeur aussi du Club des Français volants pour le patinage artistique et la danse sur glace. Et puis quand j'ai arrêté ma carrière, en fait, j'étais plutôt branchée donc média, donc travaillais pour Eurosport, commenter toutes les compétitions, les grands événements de nos disciplines d'expression. Puis au bout d'un moment, et puis avec la débâcle médiatique qu'on a connue liée au scandale des violences sexuelles et la démission de mon prédécesseur, en fait, tout est allé très vite et je me suis dit. Commenter, c'est génial en fait d'avoir un lien avec le public et de leur donner des billes pour comprendre les résultats et comprendre nos disciplines tout simplement et s'y intéresser d'autant plus. Mais si on veut faire changer le système, il faut rentrer dans ce système. Donc il y a l'idée d'agir. Il y a plusieurs niveaux pour agir quand on arrête, quand on est sportif de niveau. Et je pense que de se mettre dans les instances, c'est pas forcément ce qui est privilégié. C'est pas forcément ce qui plaît le plus. Mais je pense que c'est à tort.
Oui.
Puisqu'on peut faire bouger les lignes. Oui. On peut être décideur et on peut faire en sorte que les valeurs qu'on a portées en étant athlète, soient réelles dans une fédération, dans un club, dans une ligue. Peu importe l'instance, finalement, il y a tellement d'opportunités et de chemins à tracer. Moi, j'ai pris celui-ci. Je ne sais pas pour combien de temps, mais c'est ça qui me plaît aujourd'hui.
Et tu comprends que ça puisse être aussi compliqué, parce que tu dis, effectivement, pour changer les choses, il faut être à l'intérieur du système, mais que ça peut être aussi peut-être effrayant, en tout cas, de se lancer là-dedans, parce qu'on le voit bien avec toi aussi, hein, c'est un déferlement médiatique aussi, il y a des à côté qui ne sont pas forcément évidents à gérer. Et que du coup, on n'ose pas se lancer. Je pense à ça parce qu'effectivement, encore aujourd'hui, il y a très peu de femmes, finalement, qui sont à des postes à haute responsabilité ou à la présidence. Je crois qu'il n'y en a que 3 à l'heure actuelle. C'est très peu. Et que du coup, on puisse avoir peut-être du mal à faire ce pas-là.
Oui, je pense que ça concerne tous les métiers. Je pense que les femmes, juste, ne veulent peut-être pas se laisser manger par leur vie professionnelle et qu'on essaye toutes, en fait, de trouver le bon équilibre. Moi, c'est pas ça qui m'a retenue. C'est juste que j'étais bien dans ma vie, j'étais bien avec mes activités professionnelles et que s'il n'y avait pas eu ce retournement de situation et cette table qui se renverse en mars 2020, peut-être que j'y serais jamais allée, peut-être que ça serait venu beaucoup plus tard. C'est des métiers à responsabilité, ça peut effrayer, mais même s'il n'y a que 3 femmes aujourd'hui qui sont présidentes de fédérations olympiques, les femmes sont de plus en plus présentes dans le mouvement sportif. Je le vois au sein de ma fédération, mais je le vois aussi quand je vais au CNOSF, d'ailleurs avec l'élection de Brigitte Henriques, avec, on a quand même une ministre chargée des sports qui est une femme aussi, avec Roxana Maracineanu. Mais voilà, il y a de plus en plus de trésorières générales, de secrétaires générales, en fait, d'engagement. Voilà, pour moi, honnêtement, même si on est beaucoup de femmes dans cette fédération aujourd'hui, c'est pas ça qui devient un critère de sélection. C'est vraiment la disponibilité, l'engagement, les compétences qui font qu'elles se retrouvent là aujourd'hui. Mais je suis contre aussi les contraintes des quotas, puisque je peux comprendre vraiment qu'une femme n'ait pas forcément envie d'endosser un tel costume, non pas parce qu'elles ne sont pas capables ou pas légitimes, c'est juste que ce sont des choix de vie. Et en fait, ce qui compte aujourd'hui, c'est que les femmes aient le choix de prendre cette voie-là ou pas.
Oui.
Qu'elles puissent le faire si elles le souhaitent.
Qu'on les mette dans les bonnes conditions aussi. D'ailleurs, je crois qu'il y a pas mal de choses qui sont mises en place, que ce soit aussi Sarah Ouramoun qui a créé un programme qui s'appelle Dirigeante. Il me semble qu'il y a d'autres choses aussi qui sont mises en place pour aider, que ce soit par exemple avec la FEMIX aussi également, qui forme, je crois, des futures dirigeantes. Ou en tout cas, donc c'est vrai que ça va dans le bon sens et c'est valorisé. En tout cas, on leur donne les moyens maintenant de pouvoir le faire.
Oui, je pense que ça les rassure aussi. Je pense que les femmes, elles ont besoin d'être rassurées, de comprendre que selon leur parcours, les compétences qu'elles ont acquises, elles ne le savent peut-être pas, mais elles peuvent accéder à des postes à responsabilité. Encore une fois, il n'y a pas que président de fédération.
Bien sûr,
et c'est important de les conforter dans ces idées. C'est, pour faire une grosse généralité, c'est une différence entre les hommes et les femmes qui est notable. L'homme se pose moins de questions sur sa capacité à remplir ses missions. Je pense que la société est en train de changer et que de plus en plus, on se dit bah, « pourquoi pas moi ?» Et c'est ce tremplin qui est important. Mais encore une fois, avec des contraintes de quotas, on en arrive à l'effet inverse, où en fait on positionne des femmes qui se sentent pas forcément légitimes et on ne fait que jouer en fait sur une confiance qui va s'effriter de plus en plus. Et pour moi, c'est pas valorisant pour les femmes justement. Je parle vraiment à titre personnel aussi. Hein. Au moins, on me demande de prendre part à des commissions parce que je suis une femme, alors que pardon, mais j'ai pas du tout le profil pour apporter quelque chose et pour m'investir sur certains sujets.
C'est vraiment quelque chose que tu observes, c'est-à-dire on te met à certains endroits, si je puis dire, parce que tu es une femme.
Ça m'est arrivé et je ne le referai plus jamais parce que je pense que c'est la meilleure façon de décrédibiliser les femmes au sein du mouvement sportif. Donc au départ, par gentillesse, pour dépanner, j'ai accepté. Mais je ne le ferai plus jamais. Je me suis retrouvée dans des situations où je n'étais pas confortable. Et au-delà de ça, je n'avais pas ma place et je n'ai pas pu remplir ma mission. Je n'ai pas pu apporter donc une valeur ajoutée. Et c'est un sentiment qui est terrible. Alors, on sait que dans les instances, notamment le poste de fédération, on ne sait pas tout sur tout. Mais l'intérêt, c'est de pouvoir s'appuyer sur des experts qui vont pouvoir nous aider à prendre la bonne décision et à l'assumer. Donc, si on est catapulté sur des sujets où on nous demande une expertise qu'on n'a pas, ça m'est arrivé de déconstruire le travail qui avait été fait pour légitimer et positionner des femmes compétentes. Mmh. Parce qu'on en vient toujours à là, les compétences doivent être mises en avant et pas le genre, pas la provenance ou pas. Voilà, il faut débloquer certains verrous, mais attention à ne pas tomber dans l'excès inverse parce qu'on part à reculons sinon.
Mmh. Pour revenir un peu plus spécifiquement du coup à ta fédération, vous à l'heure actuelle, donc je parle globalement au niveau de la fédération, quelle est votre priorité au sein de cette fédération-là? Parce qu'effectivement, tu l'as dit, tu as repris un poste dans un branle-bas de combat médiatique, ça a été assez compliqué. Toi, quelle est ta ligne de mire à l'heure actuelle pour cette fédération-là?
Alors, je suis arrivée 3 jours avant le confinement de mars 2020. Donc, si vous voulez, je n'ai pas un fonctionnement normal d'une fédération. Je ne vis que la gestion de crise depuis 1 an et demi. D'abord, la crise éthique pour laquelle il y a eu ces élections anticipées. Ensuite, il y a eu une crise, je dirais, juridique, de remettre à niveau tous nos règlements, tous nos statuts, pour conserver la délégation octroyée par le ministère des Sports. Et ensuite, la gestion de crise liée à la pandémie, qui a découlé la crise économique, où on n'a pas pu assurer nos événements, on a perdu des sponsors. Donc aujourd'hui, moi, ma priorité, c'est simplement de remettre cette fédération à flot, en espérant sortir de cette crise rapidement, en aidant un maximum nos clubs qui ont perdu en moyenne depuis 2019 20% des licenciés, en confortant le sport de haut niveau sur des objectifs qui sont atteignables et que l'on va pouvoir soutenir. Et on les soutient pas seuls, on les soutient grâce au fléchage de l'Agence nationale du sport, donc Claude Nesta, qui décide quelles disciplines vont être poussées. Et puis forcément, de continuer le développement de certaines disciplines qui ont vocation à devenir olympiques. Je pense au patinage synchronisé, mais aussi à l'ice cross, qui est une nouvelle discipline qui se rapproche du border cross ou du ski cross. Continuer à former les coachs. Si vous voulez, j'ai pas qu'un sujet en ligne de mire. On essaye vraiment d'avoir un éventail d'objectifs et de répondre à tout, encore une fois, dans une gestion de crise permanente.
Oui, effectivement, oui, c'est de...
Quand je pourrais être visionnaire et me projeter à 4 ans, 8 ans, ça sera bien. Mais pendant un an, j'ai fait de la brasse coulée, sans vous mentir, où on essayait de colmater les brèches dans tous les sens et de remettre cette fédération à niveau. C'est chose faite. Depuis 6 mois, voilà, on a des bulles de respiration, on arrive à être dans le présent ou à se projeter sur le prochain événement, mais on est quand même sur du très court terme. L'idée, c'est quand même de retrouver une situation normale et de se, voilà, encore une fois, à moyen terme, c'est-à-dire à 4 ans, et à long terme, sur une période de 8 ans, avoir des vrais objectifs sans
avoir la tête de l'eau en permanence.
Exactement, ouais.
Et dans un monde idéal, du coup, j'ai forcément envie aussi de te poser la question parce que tu dis que là, finalement, les sujets viennent à toi. C'est pas forcément, t'as pas trop le choix de devoir gérer ces sujets-là parce qu'ils sont tellement là que on traite la priorité. Dans un monde idéal, sur une projection longue où on peut se projeter et voir à long terme, qu'est-ce que tu voudrais mettre en place vraiment? Quelles sont les choses qui te tiennent à cœur, toi, Nathalie Péchala?
Alors, ce qui me tient à cœur dans le présent, et ce pourquoi je suis arrivée depuis un an et demi, c'est tout le volet éthique. C'est-à-dire que les licenciés soient dans un espace sécurisé où ils puissent se faire plaisir, quels que soient leurs objectifs, du loisir, de la compétition, du haut niveau, peu importe. Et même, j'ai presque envie de dire, au-delà de ça, les pratiquants comme les encadrants, qu'on y retrouve tous ce qu'on vient chercher quand on va dans un club ou quand on a envie de participer à la vie associative, une solidarité, de l'échange, une convivialité. Ça a été ma priorité et ça le sera jusqu'à la fin de mon mandat, donc qui finit en juin prochain. Si jamais doit y avoir une suite, on est en démocratie et je ne suis pas encore candidate parce que j'ai vraiment la tête dans le guidon. Ouais. Et je veux faire les choses, non pas pour une possible réélection, mais je veux faire les choses parce qu'il me semble que c'est la meilleure décision pour la fédération à l'heure H. Mais si ça devait perdurer... Pour moi, la priorité, c'est l'accessibilité du haut niveau. Le problème, c'est que ça ne dépend pas simplement de notre fédération ou d'une fédération française en général, mais c'est un problème qui se joue beaucoup plus haut en termes de gouvernance, de l'Agence nationale du sport également. Mais pour moi, c'est le sujet actuel qui me questionne, qui m'interroge et même qui m'inquiète. C'est quid de 2025-2035 ? Parce que là, on a bien compris que tous les efforts étaient mis sur Paris 2024 en termes de sportifs de haut niveau, potentiellement médaillables. Mmh. Les autres, ils seront contents de participer, mais advienne que pourra. Tous les équipements de proximité aussi, il y a une vraie politique et je trouve ça très bien de s'en soucier. Encore une fois, on est dans la réactivité, c'est-à-dire dans le très court terme. Mais en attendant que cet héritage suscite des vocations chez les plus jeunes qui seront devant leur télévision ou mieux dans les enceintes sportives pour soutenir leurs champions, donc le temps qu'ils s'y mettent et qu'ils arrivent à performer, qu'est-ce qu'on fait pour les jeunes qui sont aujourd'hui pas mûrs, que ce soit sport d'été ou sport d'hiver, et qui se projettent sur 2026, 2030? Comment on les aide? Puisque tous les moyens sont ciblés sur l'élite de l'élite du sport estival. Voilà, moi, c'est mon combat aujourd'hui. Ouais. Et je pense que, d'une manière plus générale, le sport devrait être mis au cœur de notre société, avec un budget conséquent alloué à nos objectifs, c'est-à-dire mettre les moyens à hauteur de nos ambitions, mais que déjà ça soit une ambition au niveau du gouvernement.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Voilà. Le sport, on entend beaucoup parler, surtout avec le Covid, le sport santé, le sport pour tous, le sport bien-être, et c'est super. Mais quels moyens on met en face ? Et à quel moment ça devient concret et non pas une belle idée ?
Oui, je suis complètement d'accord avec toi, et ça me fait réagir, parce que là, par exemple, la semaine dernière, j'ai passé 4 jours avec des sportifs de haut niveau, dans plusieurs disciplines. J'ai énormément échangé avec elles. C'est généralement des jeunes femmes qui ne sont pas les meilleures dans leur discipline, qui sont un peu derrière, mais qui performent quand même, qui font des compétitions nationales, européennes, internationales. Et toutes, elles étaient 12, elles m'ont toutes fait le même retour, et j'ai été extrêmement surprise, elles m'ont dit qu'elles ne se sentaient pas accompagnées par leur fédération. Aucune.
Oui, mais le bémol, vraiment, je défends pas les fédérations pour les défendre parce qu'on est dans le même sac, c'est que le fléchage, il se fait au niveau de l'Agence nationale du sport et qu'on a l'obligation de soutenir l'élite de l'élite, sauf que le reste, bah, on n'a pas le budget. Et les partenariats privés, bien sûr qu'ils font les développer dans les fédérations parce que les contributions publiques, elles ne sont pas illimitées et elles ont plutôt tendance à être de plus en plus réduites. Sauf qu'on est en pleine pandémie. Donc, on n'a pas, en fait, cette sérénité, cette stabilité économique des entreprises qui pourraient se tourner vers le sport, puisqu'elles sont déjà, elles, en train d'essayer de se sauver.
Ouais. Donc, véritable manque de moyens, en fait.
Il y a un véritable manque de moyens et il y a un manque surtout de vision à moyen et long terme. Encore une fois, ces sportives dont tu parles, ça sera peut-être les championnes, alors je ne sais pas si c'est été ou hiver, mais peut-être de 2028. Et en fait, on les met sur le côté. Donc moi, je ne sais pas à quoi va ressembler nos résultats en 2024, mais je peux vous assurer que pour 2028, 2026, pour les sports d'hiver, ça va être très compliqué. Et les présidents de fédération se feront taper sur la tête.
Ça, c'est une évidence. Vous allez être les premiers mis en cause.
Et en plus, on sera en sandwich. C'est-à-dire que nos sportifs de niveau vont nous taper sur la tête parce qu'on ne les soutient pas et on ne les accompagne pas. C'est ce que tu viens de dire.
Absolument.
Et on va se faire taper sur la tête au niveau supérieur, donc l'Agence nationale du sport ou même le ministère chargé des sports, parce qu'on n'aura pas les résultats escomptés. Mais aujourd'hui, on pâtit vraiment de cette politique.
C'est une situation qui est inextricable, en fait, quand on t'écoute.
Je vais peut-être me répéter, mais le seul moyen de sortir de cette boucle, pour moi, qui est infernale, c'est d'avoir des gens qui voient au-delà de leur propre mandature. C'est des gens qui ont une vraie volonté d'accompagner le sport. On parlait du sport de niveau, mais plus encore, vraiment le sport pour tous, c'est-à-dire le sport à l'école, que les enfants, les adolescents puissent s'épanouir dans une activité sportive, et même je décloisonne, une activité sportive ou artistique, mais leur donner ces moyens-là. Et si on n'a pas, cette prise de conscience au niveau politique et stratégique, eh ben on fera que des toutes petites boucles de la durée des mandats de chacun, où chacun voudra s'en sortir grandi. Mais je pense qu'on n'est plus dans cette époque, en fait. Je pense qu'on le voit bien, je fais un parallèle qui peut être... Mais on le voit avec l'écologie, où on n'en est plus juste à raisonner en termes de sa propre personne sur des durées très courtes, mais sur comment changer la société à long terme et d'une manière durable, efficace. Oui, on n'aura peut-être pas les résultats tout de suite maintenant, mais c'est quoi l'important ? C'est de remettre à flot une société, et je parle même d'une petite société en ce qui concerne la Fédération des sports de glace, ou c'est juste de se satisfaire de son passage éclair ? Ben moi, pour le coup, il va être très... Enfin, mon mandat, là, il aura duré 2 ans et demi, mais finalement, c'est pas ça qui compte pour moi. C'est, euh, c'est ce que ça va pouvoir multiplier ou c'est comme une impulsion pour arriver à changer les choses, même si ça prend du temps de changer les choses.
Il faut, c'est vrai, quand on t'écoute, il faudrait revoir fondamentalement finalement le schéma actuel et ce qui est mis en place à l'heure actuelle. Effectivement, c'est vrai que je continue dans cette vision-là parce que ça m'a énormément marqué d'avoir discuté avec toutes ces championnes, dont même plusieurs qui sont allées aux Jeux Olympiques. Donc on est vraiment sur du très très haut niveau, qui avaient vraiment la sensation, comme elles n'étaient pas les toutes meilleures, d'être complètement lâchées. Et c'est vrai que c'est très compliqué pour elles psychologiquement de ne pas se sentir accompagnées, d'être complètement un peu livrées à elles-mêmes, quoi.
Enfin, je vais te dire, en plus, le sport de haut niveau, pour venir au sport de haut niveau, c'est une prise de risque constante sur des choix que tu dois prendre sur différents niveaux, techniques, physiques, stratégiques, artistiques pour certaines disciplines. Et en fait, ces athlètes le font au quotidien. Et les instances derrière ne font pas forcément ce travail-là. La prise de risque, pour moi, au niveau au-dessus des fédérations, c'est justement d'arriver à repérer ceux qui sont au milieu de tableau. Et ce n'est pas du tout péjoratif. Ils sont au milieu de tableau peut-être parce qu'ils sont en devenir. Peut-être que c'est leur meilleur résultat, qu'il saura. On ne sait pas. Mais en tout cas, les identifier et les aider à performer, à monter sur la boîte, à gagner des médailles aux Jeux Olympiques, puisque c'est ça qui compte aujourd'hui. Mais oui, il y aura de la perte, il y aura des déchets, c'est sûr. Il y aura des gens qu'on soutiendra et qui n'arriveront pas à monter sur la boîte, mais il faut leur donner les moyens. Il faut leur donner les moyens. On ne peut pas se contenter en France de faire des coups, c'est-à-dire d'avoir quelqu'un de talentueux qui va arriver à avoir des médailles, on va lui taper dans le dos, on va lui dire « tu sais quoi, on donne ce que tu veux maintenant ». Ce n'est pas ça la prise de risque. La prise de risque, c'est d'arriver à avoir le potentiel, d'arriver à avoir les athlètes qui supportent une certaine charge de travail, de pression, et qui arrivent à être en évolution, en progression. C'est cette courbe-là qu'il faut regarder. Et c'est ça qui manque aujourd'hui.
Est-ce que tu ne penses pas du coup qu'il y a aussi un problème de cette notion de performance? C'est-à-dire que du coup, effectivement, comme tu le disais, ceux qui vont réussir à monter sur la boîte, on va leur taper dans le dos, on va dire bravo, c'est super. Il va y avoir beaucoup de médiatisation sur ces sportifs-là. Regardez comme on est fort, regardez comme en France, on a des athlètes qui arrivent à performer. Et que du coup, bah, forcément, quand on n'est plus dans cette notion de performance, mais quand même de bons résultats, et bah ça, c'est pas du tout mis en avant, en fait, finalement. C'est absolument pas valorisé. On regarde le top du top, le top niveau, qui finalement représente, je ne sais pas combien de pourcents des athlètes, mais très peu, au regard de l'immensité des athlètes qu'on a en France. Et finalement, il n'y a qu'à ces personnes-là qu'on donne du crédit. C'est très compliqué, du coup, à vivre pour les athlètes. Ouais.
C'est extrêmement binaire. C'est-à-dire, médaillé, bravo. Non médaillé, dommage. Au revoir.
Bien sûr. Oui, alors, bien sûr.
Alors qu'en fait, c'est pas ça. Un cas personnel pour l'avoir vécu. J'avais dans l'idée, à Vancouver 2010, de faire un top 10 avec mon partenaire. On a fait 7e. On était extrêmement heureux de notre performance. Sauf qu'entre le grand public, le média et les instances qui regardent juste le papier, parce que c'est ce qui reste, ils voient 7, bah c'est nul, à dégager, merci, au revoir. Et on n'arrive même plus à se satisfaire soi-même de sa propre performance avec ce regard-là. Sauf que normalement, on doit regarder, encore une fois, la progression, l'évolution de chaque athlète et de se dire qu'en fait, c'est possible. Et c'est possible, ça ne veut pas dire que c'est sûr, mais ça veut dire qu'on doit cibler des moyens pour arriver à se donner une chance, pourquoi pas, de monter sur la boîte. Alors oui, ça représente une aide plus importante puisque le vivier va être plus gros. Mais c'est de la considération de tous. Et deux, je pense qu'on est en train de passer à côté de champions de demain qui se démotivent, qui n'ont pas ce qu'il faut pour aujourd'hui travailler pour avoir les résultats demain. Bon. Et bien, le constat, pour moi, il est simple. C'est qu'on ne pleurera pas en 2026, 2028, 2030, 2032, 2034. On le sait. On fera des coups, on fera des médailles. Parce qu'en France, on a ce talent-là d'arriver à faire des coups. Mais on n'installe pas une pérennité dans la performance de très haut niveau.
C'est pas frustrant pour toi, en fait? Parce que c'est vrai que entre ton discours et on sent vraiment cette volonté profonde de faire changer les choses et ton optique. Et ce qui est mis en place, et ton rôle, c'est une schizophrénie, finalement.
Mais c'est plus que frustrant. C'est énervant, c'est rageant. Enfin, moi, ça me... Je, je sais plus comment le dire. Hein, je suis dépitée parce que surtout quand on est président de fédé, on a l'impression qu'on a les rênes et que c'est nous qui décidons. Mm-hmm. Mais non, en fait, on se rend compte que même là, il y a toujours quelqu'un au-dessus et avec lequel ou laquelle on n'a pas forcément la même vision et on doit composer. Sauf qu'on compose et en plus on se prend les coups. Et prendre des coups, c'est pas un problème. Quand on est athlète de haut niveau, on s'en prend tout le temps des pelles. On vit les échecs, on vit les blessures, on vit les changements de coach, de partenaire, on vit les décisions difficiles, même sur le plan personnel. Donc ça, c'est pas un souci, un peu plus, un peu moins. C'est juste que je voudrais pouvoir aider plus nos sportifs. Je voudrais pouvoir leur expliquer, je voudrais pouvoir les accompagner, les rassurer. Sauf que si moi, je ne suis pas rassurée, je fais comment pour les rassurer?
C'est déjà problématique.
Sur l'avenir.
Ouais. Effectivement.
Donc je suis en train de me tirer une balle dans le pied toute seule et je suis en train de les démoraliser. Et je voudrais apporter aussi un discours
positif.
Positif par rapport à ces athlètes de haut niveau qui se préparent pour demain. Mmh. On vous lâchera pas. On va se battre pour vous. On va faire en sorte que tout aille bien parce qu'on croit en vous. On croit en vous. On a juste besoin de moyens et on est en train de se démener pour aller les chercher.
Et comment tu abordes, donc je l'ai dit tout à l'heure, t'es chef de mission pour la délégation là, des Jeux de Tokyo. Comment tu les abordes? Quelle est cette vision que tu as là, des Jeux qui sont dans 3 mois
Ben là, on est donc sur du très court terme. Donc ouais. Finalement, on est tous raccord. Hein, on a des sportifs qui sont fléchés, très bien accompagnés, très bien suivis. Et j'espère qu'ils arriveront à délivrer la performance le jour J. Voilà. Au-delà de ça, pour parler de l'intégralité de ces athlètes qui sont quand même olympiens, parce qu'on a l'impression que c'est rien, mais c'est pas rien. En fait,
énorme,
aujourd'hui,
incroyable.
Pour les sports d'hiver, on a une centaine d'athlètes simplement qui vont représenter la France, qui font partie, pour moi, de l'élite et pas simplement ceux qui visent des médailles ou ceux qui vont les avoir. Donc, le message que je leur fais passer et vraiment qui compte énormément à mes yeux, c'est qu'ils doivent tous être fiers de leur performance avec leurs objectifs propres et personnels, qu'ils se seront fixés eux, qu'ils soient capables de faire en compétition ce qu'ils font au jour le jour à l'entraînement. Voilà, qu'ils soient fiers de ce qu'ils vont délivrer, chacun. Et puis après, on verra le résultat. Ça dépend de tellement de choses. Ça dépend de la concurrence, de l'environnement extérieur pour les sports de plein air. Et puis même un peu de chance, mine de rien, parce que n'ayons pas peur des mots. Il y a la notion de talent, de travail, de stratégie, mais de chance aussi. Donc j'espère que il y aura un alignement des planètes et surtout quatrième. Bon, on dit tout le temps que c'est la pire des places, c'est pas vrai. Hein. Il y a cinquième, sixième, voilà. Il y en a plein, mais même celui qui fait quinzième, il trouve ça incroyable de se qualifier au JO et d'arriver à faire ce qu'il sait faire. Mais bravo, bravo.
On en vient à la notion de plaisir aussi, qui est malheureusement pas trop mise en avant aussi dans la pratique sportive à l'heure actuelle, alors que finalement, c'est peut-être le fondement de tout.
C'est le fondement de tout et je pense que c'est ce qui compte pour même préparer la suite, la reconversion, juste être bien au quotidien, se réveiller en ayant une belle image, une belle opinion de ce qu'on fait, en fait. Mmh. Et oui, c'est pas tous les jours rose et il n'y aura pas que des victoires et des Marseillaises, on le sait. Mais c'est pas grave. Ce qui compte, c'est le combat, c'est la persévérance, la résilience, et puis encore une fois d'être conscient, parce qu'il y aura que soi-même au final qui sera conscient de tous les efforts qui auront été faits. J'aime pas trop le mot sacrifice, je le trouve vraiment extrême dans le sport, mais tous les efforts qui ont été faits au jour après jour, et qui permettront de vivre en paix. Avec ses choix et les directions qui ont été prises des épreuves qui ont été mises sur le chemin. Et c'est ça aussi qui va devenir une force pour pouvoir se reconvertir et être heureux dans sa vie professionnelle, personnelle, après la carrière de sportif de haut niveau.
Mmh. J'aimerais bien juste sur la fin revenir un peu plus spécifiquement sur ton sport, qu'est le patinage. J'avais eu l'occasion il y a 2 ans d'enregistrer un podcast avec Gabriela Papadakis. On avait beaucoup, beaucoup, beaucoup échangé sur beaucoup de sujets en lien avec le patinage. Et on avait pendant un assez long moment parlé de sa discipline, donc le patinage globalement, sur toutes les transdisciplinaires, en disant que c'était une discipline qui, encore à l'heure actuelle, pâtissait d'une image encore un peu vieillotte, qu'elle-même le ressentait, que ça leur rendait triste, parce que des gens comme elle et son partenaire Guillaume Cizeron font tout justement pour faire évoluer ces disciplines, pour mettre énormément de modernité, que ce soit dans leur routine, et que malheureusement, c'était encore un sport qui avait cette image de France 3 le dimanche après-midi avec Nelson Montfort. Je n'ai rien contre lui, hein, mais voilà, pour résumer un peu, tirer le trait. Qu'est-ce que tu en penses de ça, toi ?
Oui, alors on est là à se plaindre d'avoir le patinage sur France 2 ou France 3 le dimanche après-midi, mais c'est...
Alors qu'il y a peu de disciplines qui ont...
C'est une opportunité absolument géniale et on fait tout pour que ça dure. Parce qu'en fait, on se plaint parce qu'on aime bien ça, mais en fait, le patinage, ce qui est génial, c'est que c'est intergénérationnel. C'est-à-dire qu'on regarde le patinage avec ses parents, avec ses grands-parents. Dans les enceintes d'une patinoire, on a des jeunes, on a des retraités, on a de tout. Et c'est une force pour nos disciplines d'expression. C'est vraiment une force. Après, l'image désuète, finalement, pas vraiment sur les disciplines, parce qu'il y a une évolution qui est absolument incroyable,
absolument.
Sur la technique et le côté physique, acrobatique, athlétique. C'est tout l'enrobage, j'ai envie de dire, de l'événement. Et là, il y a beaucoup de choses à faire. Et là, je me tourne vers la Fédération internationale de patinage en leur disant qu'ils ont des moyens de faire bouger les lignes et il faut qu'ils nous laissent plus de liberté dans leur protocole pour que les pays, parce qu'en fonction des pays, on a des cultures quand même qui sont différentes pour avoir un attrait sur le spectateur ou plus loin sur le téléspectateur. Et il faut qu'on puisse avoir cette liberté-là. Alors, le cadre, moi, j'adore ça. C'est super d'avoir des règles. Mais si on veut bouger les lignes, bah, il ne faut pas non plus avoir des contraintes à tous les virages et se battre pour tout. Franchement, c'est ce que je fais, par exemple, pour le Grand Prix de France. J'ai essayé d'amener un petit peu de fraîcheur sur la glace ou en dehors pour avoir aussi l'opportunité de donner à nos athlètes une ouverture d'esprit. Et c'est ça aussi, la modernité, c'est de vivre avec son temps, avec son époque. Mais c'est un combat. Il y a de très belles choses à faire. Il y a un potentiel. Et au-delà des disciplines d'expression, on a le short track, le bobsleigh, la luge de skeleton, le curling aussi, qui sont des disciplines, certaines en sommeil, d'autres dans les starting blocks pour aller performer, qui ont besoin d'aide aussi sur le plan médiatique.
La visibilité, oui.
Exactement. Ça cartonne en Asie. Pour l'avoir vécu plusieurs fois pendant les Jeux, c'est des disciplines qui sont incroyablement modernes. C'est-à-dire que ça dure pas très longtemps, c'est très accessible puisqu'on comprend la règle du jeu tout de suite. Le premier qui passe la ligne qui a gagné. Il n'y a pas plus simple. Et très enthousiasmant parce que plein de changements, plein de surprises. Donc ça, ce sont des sports qui plaisent aux nouvelles générations, qu'il faudrait pousser. Voilà, petit appel du pied.
Et pour clôturer ce podcast, je pose la même question à toutes nos invitées. C'est quelle est ta définition d'une championne ?
C'est très compliqué de faire une seule et même définition parce qu'il y a autant de profils de championne qu'il y a de championne. Mais je vais dire à titre personnel, être une championne, c'est quelqu'un de droit qui prend des décisions, qui les assume, qui ne gagne pas toujours, mais qui garde la tête non pas haute, c'est pas de la fierté, mais c'est juste les pieds sur terre, le regard droit devant. Et qui se dit que la route, elle n'est jamais terminée jusqu'à ce qu'on soit tous à notre dernier souffle et que finalement, il n'y a que nous qui avons les cartes en main pour faire en sorte que ça change et que ça évolue dans le bon sens. Et le bon sens, il est propre à chacun. Voilà.
Merci beaucoup Nathalie pour ce petit moment d'échange.
T'en prie, merci à toi.
Et écoute, et je souhaite à nos athlètes en tout cas plein de médailles. Et puis, en tout cas, au-delà des médailles, comme tu le disais, au moins qu'ils soient satisfaits d'eux-mêmes sur ces jeux d'hiver.
Ils se donnent.
Exactement. Merci beaucoup, Nathalie.
Merci à toi.
Garantie.
Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à Championne du Monde sur les plateformes d'écoute et à nous laisser commentaires et étoiles sur Apple Podcasts. Et rejoignez-nous sur Instagram pour plus de news et infos sur le sport au féminin. À bientôt !